qui va intervenir dans le courant des années 1990 est une nouvelle donne. Au cours des années 90, les scientifiques ont progressivement adopté une conception dynamique de la nature. La nature est en évolution constante, en équilibre toujours instable. L'écologie contemporaine insiste sur le fait que les milieux qui nous entourent, que ce soit des milieux sauvages ou des milieux mis en valeur, sont le produit d'une histoire. Une histoire où on voit s'articuler des perturbations naturelles, avec un régime de perturbations plus ou moins varié, et des perturbations d'origine humaine. Mais ces perturbations ne sont plus considérées comme ce qui est susceptible de détruire des équilibres, elles sont considérées comme ayant une positivité. Ce sont les perturbations et les régimes de perturbations qui structurent les systèmes écologiques, toujours en équilibre dynamique. Plutôt que de préserver donc la stabilité, dans cette conception d'une nature en perpétuel changement, il convient de se préoccuper d'adaptabilité, de capacité d'adaptation des populations, d'espaces, des milieux, des paysages, aux perturbations qui peuvent venir de leur environnement, en particulier le réchauffement climatique, par exemple. De cette capacité d'adaptation, la diversité biologique serait le garant. C'est du moins l'hypothèse sur laquelle travaille l'écologie contemporaine et qu'elle a pu établir à certains niveaux d'organisation du vivant. C'est que la diversité biologique se définit désormais à différents niveaux d'organisation du vivant. On ne se préoccupe pas seulement de la diversité en espèces des milieux. On se préoccupe de la diversité génétique des populations d'espèces, mais on se préoccupe aussi de la diversité fonctionnelle des milieux et de la diversité écosystémique des paysages. C'est une des raisons, il y en a bien d'autres, on pourra en discuter, qui ont conduit à faire de la biodiversité une norme positive et de considérer qu'une action est bonne pour la nature si elle maintient, voire si elle améliore, un bon niveau de diversité biologique en général, ou un élément, ou un niveau de cette biodiversité. Conjointement, des spécialités en plein développement, comme l'écologie du paysage, l'écologie des perturbations, la biologie de la conservation, l'écologie de la restauration, ont débouché sur des pratiques de génie écologique, grâce auxquelles on peut réhabiliter des milieux, les dépolluer, orienter la dynamique des faunes et des flores, communautés biotiques, comme on dit, ou même réintroduire des espèces disparues d'une région donnée. Plus encore, quoique moi les réintroductions je ne suis pas tellement pour, mais enfin bon, ça, on peut le faire. Plus encore, le génie écologique s'applique à mettre au point des pratiques agricoles, limitant grâce à une utilisation judicieuse de la diversité biologique, l'utilisation d'engrais et de pesticides sans nuire au rendement. C'est l'agroécologie, le développement de ce que Griffon a appelé la révolution doublement verte. Agriculture écologiquement intensive. Un champ est en train de s'ouvrir à des techniques qui soient à la fois performantes et qui respectent la nature. Ce nouveau contexte scientifique et technique modifie les objectifs traditionnels de la protection. Il ne peut plus s'agir de préserver une nature vierge ou sauvage des interventions humaines, ou de laisser se développer spontanément les dynamiques naturelles avec pour perspective stratégique que se restaure le climax. Il s'agit soit de maintenir le régime de perturbation qui a produit l'état présent, si on le trouve bien, soit d'infléchir, d'initier, d'entraver, bref, de piloter des trajectoires afin d'aboutir à un état que l'on a de bonnes raisons de juger préférable à la situation actuelle ou à ce vers quoi elle tendrait spontanément. Ça signifie que l'on peut concevoir des activités humaines qui soient favorables à la nature, et en particulier à la biodiversité, et les promouvoir au détriment de celles qui sont nocives. En effet, si on parvient à piloter des dynamiques naturelles, on peut viser un état qui soit à la fois favorable à la diversité, encore faut-il disposer d'indicateurs pour cela, on pourra peut-être l'évoquer dans la discussion, je n'ai pas prévu d'en parler parce que c'est extrêmement compliqué et c'est vrai que c'est une source de controverse, de belles controverses. Et désirable pour les hommes. Encore faut-il savoir pour quels hommes et comment ce désirable a été déterminé, s'il a été démocratiquement ou pas. C'est ainsi que les gestionnaires d'espaces protégés ont été invités à délaisser un principe de naturalité qui invitait à interdire par principe certaines activités, la chasse en particulier, dans les parcs, à se méfier des autres et à ne les tolérer que lorsqu'elles étaient traditionnelles et plus ou moins en déclin. Il y a donc tendance à abandonner ces questions de principe, à savoir tout ce qui est naturel est bon, tout ce qui est artificiel est pour le moins douteux, pour une approche qui évalue les actions sur les conséquences, en termes de diversité biologique, qu'elles sont susceptibles d'avoir. Ça simplifie certainement pas les choses, car, et on l'a bien vu, je l'ai bien vu dans les parcs nationaux, il est plus facile et plus aisé d'interdire une action que de discuter des objectifs à poursuivre en matière de diversité biologique et de pouvoir anticiper, sans se tromper, l'impact de l'action concernée sur les critères qu'on a choisis. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Que la biodiversité soit devenue une norme pour l'action et aussi pour conséquence de déconstruire dans les parcs une politique de protection qui s'était jusqu'alors focalisée sur la nature remarquable. Se préoccuper de la diversité biologique, c'est en effet sortir des espaces protégés par la loi, s'intéresser aux campagnes, et même aux milieux urbains ou périurbains. Ce souci de prendre soin de la nature ordinaire témoigne aussi bien les opérations de réhabilitation de milieux dégradés que la faveur récente du génie écologique auprès des services d'espaces verts urbains. De même, avec la stratégie paneuropéenne pour la protection de la diversité biologique et paysagère et son réseau de corridors écologiques, avec les mesures agri-environnementales, le réseau Natura 2000 et plus encore avec les futures trames vertes et bleues, la nature que l'on entend protéger sort de ses réserves et de ses parcs. Se préoccupe certes encore de nature remarquable, mais de plus en plus aussi d'une nature banale. Banale, c'est-à-dire que c'est un bien commun, hein. Le four banal était un bien commun. Enfin, passer de la protection de la nature à la gestion de la biodiversité conduit à poser un nouveau regard sur les activités humaines. Certaines pouvant être favorables à la diversité biologique, on peut s'acheminer vers une façon de tirer parti de la nature sans la détruire, de mettre le territoire en valeur sans nuire à la diversité biologique. Il s'agit de préserver, voire d'enrichir, la diversité biologique non pas contre, mais avec les activités humaines et donc avec les populations concernées. Cela suppose d'impliquer les sociétés locales et donc de substituer des démarches participatives aux pratiques technocratiques de l'administration. Alors c'est pas facile, hein, parce que les gens ont été sélectionnés sur leur excellence dans la technocratie et pas sur leur excellence dans les négociations.